RFI 6h30, à Paris 5h30 en temps universel. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Julien Coquel-Rouem, bonjour à tous.
À la une, ce plan de déminage de l'aéroport international de Goma en RDC lancé par l'AFC M23.
Oui, 2 mois après la prise de la capitale du Nord Kivu par le groupe armé, aucun vol international ou humanitaire n'a pu décoller. Le tarmac a été débarrassé des explosifs, mais ce n'est toujours pas le cas de la piste et la tour de contrôle reste hors service. Au cœur de l'escalade diplomatique entre Paris et Alger, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné hier à 5 de prison ferme en Algérie, mais l'hypothèse d'une grâce présidentielle n'est pas à exclure. C'est ce que pense en tout cas le chercheur Hasni Abidi, que vous entendrez. Le Gabon mise plus que jamais sur les revenus du pétrole. L'État vient d'acter le rachat de 2 compagnies du secteur hier, l'une britannique, l'autre française. Et puis 27 milliards de dollars promis lors du sommet Nutrition pour la croissance à Paris afin de lutter contre la malnutrition, un mal qui touche particulièrement les femmes. C'est un pôle de transport clé dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 2 mois et la prise de Goma par l'AFC M23, l'aéroport international n'a toujours pas été remis en service. Pourtant, les autorités de fait s'activent. Elles ont même lancé une opération de déminage du site, mais cela risque de prendre du temps, Alexis Guilleux.
2 mois après la prise de la ville, le son des avions a cédé sa place au silence. À l'entrée de l'aéroport, des combattants de l'AFC M23 sont stationnés. Au milieu des bâtiments détruits et des bureaux pillés, des herbes ont commencé à pousser. Des spécialistes s'activent pour déminer la zone. L'AFC M23 affirme avoir déjà sécurisé une partie de l'aéroport de Goma, mais il reste du travail car une grande quantité de mines et d'explosifs y ont été disséminés. Le tarmac, lui, est déjà déminé. Autour, on peut voir les cartouches et les obus récupérés par le groupe armé. Mais la piste, elle, reste inaccessible et la tour de contrôle n'est plus opérationnelle depuis les combats. Les stigmates de la guerre sont encore visibles dans l'enceinte de l'aéroport, des hélicoptères de l'armée capturés, d'autres endommagés et des colonnes de gilets militaires stockées à proximité de l'entrepôt central. Depuis la prise de Goma, des organisations onusiennes et régionales plaident pour la réouverture de l'aéroport afin de permettre la création d'un couloir humanitaire. Dans un récent rapport, le secrétaire général de l'ONU a pointé les restrictions de déplacement imposé par l'AFC M23 à la MONUSCO, ce qui empêche le service anti-mine de neutraliser tous les engins non explosés.
Alexis Guilleux, le journal burundais Yaga Burundi a été suspendu hier. Décision rendue par le Conseil national de communication. Cet organe nommé par le pouvoir pour réguler les médias affirme que le ministère de l'Intérieur n'a pas retrouvé dans ses archives l'agrément du média et considère celui déposé au CNC comme un faux. Les jeunes blogueurs responsables de Yaga Burundi, réputés pour leur indépendance, se sont dit surpris en rappelant que leur association avait été bel et bien agréée en son temps. Son incarcération depuis la mi-novembre faisait enfler l'abcès des tensions entre la France et l'Algérie. Boualem Sansal a finalement été condamné à 5 ans de prison ferme hier par un tribunal algérien. L'écrivain franco-algérien était accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, à la sûreté de l'État et à la stabilité des institutions. En réaction, Emmanuel Macron a dit souhaiter vivement qu'il puisse redevenir un homme libre et en a appelé pour cela au bon sens et à l'humanité des autorités algériennes. Hasni Abidi est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Pour lui, ces paroles du président français, elles vont dans le sens d'un apaisement entre les deux pays et cela pourrait aboutir à une grâce présidentielle.
On s'attend à une visite du ministre des Affaires étrangères français, M. Barrot, à Alger, probablement le mois d'avril. Deuxième indicateur positif, c'est que les contacts n'ont jamais cessé entre Alger et Paris. Et Alger, enfin les autorités algériennes savent très bien que le président Macron a fait de l'affaire Boualem Sansal une question importante dans l'amorce de ce dialogue. En quelque sorte, le président Macron, qui a été cité par M. Tebboune comme finalement le point de référence pour Alger, ce sont des éléments qui plaident en faveur plutôt d'une réconciliation. Et seul, bien sûr, ce processus politique, l'amorce de ce dialogue, l'engagement personnel du président Macron dans l'affaire de Boualem Sansal est en mesure, bien sûr, d'arriver à une solution, puisque nous avons la possibilité d'une grâce présidentielle. L'échéance, bien sûr, c'est le 5 juillet, mais cette grâce, elle peut très bien, pour des raisons de santé, pour des raisons aussi d'un âge avancé, elle peut très bien intervenir avant les fameuses grâces présidentielles lors des événements de 5 juillet, la date de l'indépendance de l'Algérie.
Hasni Abidi, joint au téléphone par Pierre Firsion. Les autorités maliennes de transition se disent indignées par les violences subies par ces ressortissants expulsés expulsés de Mauritanie. Dans un communiqué diffusé mercredi, le gouvernement appelle son voisin mauritanien à cesser ses violations flagrantes des droits humains. Selon le ministre des Maliens établi à l'extérieur, Moussa Agh Attaher, plus de 1800 Maliens ont été refoulés de Mauritanie au cours des dernières semaines. Récemment, des ONG sénégalaises notamment ont établi des constats similaires pour des migrants originaires du Sénégal. Régime ami du Mali, la junte nigérienne s'est débarrassée de tous les partis politiques. Tous ont été dissous sur ordonnance du général Abdourahmane Tiani, mercredi, une date à laquelle le chef du CNSP a aussi été officiellement nommé président pour 5 ans. La période pourra varier selon la situation sécuritaire. Magali Lagrange, les grandes formations politiques nigériennes n'ont pas réagi.
Silence radio dans les états-majors des grands partis nigériens après l'annonce de leur dissolution dans un pays où l'espace civique s'est fortement réduit. Plus de 30 ans après l'instauration du multipartisme, le Niger comptait 172 formations politiques. Suspendues depuis le coup d'État de 2023, elles n'ont pas été associées aux assises nationales. C'est un tournant décisif dans la vie politique du pays, écrit le média Air Info Agadez. Un membre du PNDS y voit une façon de remettre de l'ordre dans une offre politique pléthorique. Parmi ces dizaines de formations, beaucoup n'étaient que des coquilles vides, explique un analyste. Pour lui, il existait par ailleurs une réelle déception de l'opinion nigérienne envers les partis, mais leur dissolution ne réglera pas les problèmes politiques. Un observateur de la société civile exprime sa crainte. L'installation progressive de la pensée unique, la disparition de toute opposition. Les membres des partis que nous avons pu joindre attendent le feu vert pour créer de nouvelles formations et préparer un retour des civils au pouvoir. Les assises nationales ont recommandé de limiter leur nombre.
Magali Lagrange, l'État gabonais croit très fort dans l'avenir du pétrole. Un an après le rachat l'année dernière donc de la société Assala Energy, deux autres entreprises du secteur viennent de passer dans le giron de Libreville, la société britannique Tullow Oil et la française SMP Afrique rejoignent donc la Gabon Oil Company, c'est la société nationale des hydrocarbures. C'est le président de la République lui-même qui a signé ces acquisitions hier, Yves-Laurent Goma.
Sur le perron du palais présidentiel, Brice Clotaire Oli Gengema brandit en souriant les deux conventions. Dans le public, on trouve des jeunes écoliers du Britannia militaire de Libreville.
Cette acquisition est l'expression concrète de notre volonté inébranlable de reconquérir notre souveraineté économique. Engagement solennel que j'ai pris devant le peuple gabonais.
La principale opération est réalisée avec Tulloy. La société britannique produit 12 000 barils de pétrole par jour. Elle était implantée au Gabon depuis 26 ans. Roald Gouet, directeur général du groupe.
Quelque part, on part avec un peu de tristesse aussi, mais on espère ne pas partir pour longtemps et revenir un jour avec une autre opportunité au Gabon.
Grâce à cette opération, la production pétrolière de l'État passera de 70 à 82 000 barils par jour. Une hausse qui augmente également les revenus de l'État et surtout la souveraineté du pays dans ce secteur des hydrocarbures. L'État renforce aussi ses capacités techniques avec l'achat de SMP Afrique, une entreprise française spécialisée dans la maintenance et le forage pétrolier. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Au Gabon, toujours, le Conseil national du parti d'opposition Réagir a annoncé ce jeudi qu'il ne soutiendrait aucun candidat à la présidentielle du 12 avril à la suite du rejet du dossier de candidature de son président intérimaire Michel Ondundu Lunda. Cette formation vit un déchirement, y compris devant les tribunaux, depuis le référendum constitutionnel de la fin d'année dernière, puisqu'une partie de ses cadres, menée par le premier vice-président de l'Assemblée, François Dongo Biang, soutient les autorités de transition et la candidature du général Oligui Nguema au scrutin. Plus de 700 millions de personnes dans le monde attendent les effets concrets de ces 27 milliards de dollars d'aide pour lutter contre la malnutrition. C'est le montant promis hier par Emmanuel Macron, le président en français lors du sommet Nutrition pour la croissance qui s'achève aujourd'hui à Paris. Cette aide, elle pourrait notamment servir à améliorer la situation des femmes, alors que ce sont elles pourtant qui produisent près de 80% des ressources alimentaires disponibles. 1 milliard d'adolescentes et de femmes sont en carence alimentaire dans le monde selon l'UNICEF. Kpenaï Traoré.
Plusieurs facteurs expliquent la malnutrition chez les femmes. L'environnement social, la pauvreté et aussi les raisons liées aux normes sociales Edouard Sebombo, directeur des programmes de l'ONG MAMA, Mère contre la malnutrition et la faim, basée en Ouganda.
Le genre et les normes sociales discriminent les femmes. Une femme ne doit pas manger tel aliment, elle ne doit pas aller acheter de la viande quand elle a ses règles. Ce sont des constructions sociales. Nous essayons de former les leaders coutumiers et religieux pour leur faire comprendre que si l'on discrimine les femmes, on condamne toute la communauté.
Elles sont nombreuses, les femmes qui ne sont pas sensibilisées sur les questions de nutrition et n'ont pas assez de connaissances sur les possibilités nutritionnelles qu'elles ont à leur disposition. Cela peut avoir des conséquences sur leur santé, surtout chez les femmes enceintes, selon Ladidi Bako Ayebou-Semenay, directrice du département chargé de la nutrition au ministère fédéral de la Santé du Nigeria.
La femme enceinte peut mourir, donner naissance à un bébé qui a des déficiences cognitives ou des malformations. Cet enfant ne pourra pas grandir normalement et vivre pleinement. Et il va hériter de la pauvreté de ses parents, transmise d'une génération à l'autre. C'est ce que nous appelons la pauvreté intergénérationnelle.
La malnutrition amplifie aussi les inégalités entre les sexes en réduisant le potentiel d'apprentissage et les opportunités des jeunes filles.
Penaï Traoré. La richesse de la faune fond à coups de fusil au Tchad. Mardi et mercredi, deux cadavres de rhinocéros noirs femelles ont été retrouvés dans le parc national de Zakouma, dans le sud-est du pays. C'est ce qu'a confirmé l'ONG African Parks, qui est co-gestionnaire du site avec le gouvernement tchadien. Disparus dans les années 1970, ces mammifères avaient pourtant été réintroduits il y a 7 ans. L'ONG dénonce à présent des actes de braconnage, Nadia Ben Mafoud.
Les enquêtes sont lancées et le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable se dit déterminé à mener des actions d'envergure pour retrouver ces braconniers. Mais pour plusieurs responsables de la lutte anti-braconnage en Afrique, même si l'abattage de rhinocéros pour leur corne est majoritairement commandité par des gangs internationaux du sud-est de l'Asie, s'attaquer à deux rhinocéros au Tchad leur semble étonnant. Pour eux, il existe d'autres zones plus accessibles avec plus de rhinocéros. Le parc de Zakouma étant hautement protégé par des gardes armés et très bien équipés, l'acte semble donc opaque. Pour endiguer le braconnage et afin de protéger les espèces menacées, le gouvernement tchadien a mis en place une gestion de ses parcs nationaux en collaboration avec des ONG internationales de conservation, notamment African Parks à Zakouma. Pour le docteur Dolmia Malachi, spécialiste tchadien en conservation de la biodiversité, c'est cette formule qui avait permis de réintroduire les rhinocéros à Zakouma. Il estime que malgré la douloureuse nouvelle de l'abattage de ces deux rhinocéros, le travail fait à Zakouma doit continuer à être appuyé par les autorités. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
La corne de rhinocéros est très prisée en Asie, notamment où on lui prête des vertus thérapeutiques malgré les interdictions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, Julien Coquel-Rouem pour la suite des RFI Matin.
Merci Paul Lonsin-Spinelli. À tout à l'heure et la suite des RFI Matin, justement, c'est le journal des sports.